mercredi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. On est avec vous tous les week-ends sur Beurre FM et tout vient à point, celui qui sait attendre, Manu.
Absolument, parce que on a aujourd'hui un invité qu'on attend depuis un moment, parce qu'il a un agenda de ministre. Hein.
Alors, aujourd'hui, on a failli nous dire qu'il viendra en septembre.
C'est ça, c'est ça. C'est plus ou moins ce qu'on nous avait dit au départ. Parce qu'on accueille un chef assez particulier. Alors en effet, s'il est meilleur ouvrier de France, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite, officier de l'Ordre du mérite agricole, officier dans l'Ordre des arts et lettres, chevalier de l'Ordre des palmes académiques, n'en jetez plus. Hein. Et ben pourtant, il n'a même pas d'étoile Michelin, ce chef. C'est aussi l'un des chefs les plus connus, mais il n'a même pas de restaurant. C'est Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Élysée, mais qui est désormais représentant personnel du président de la République pour la promotion de la gastronomie française. Bonjour Guillaume.
Bonjour monsieur.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui dans Dessus de table.
Merci de votre invitation.
Vous attendez avec impatience.
Et désolé pour le temps qu'il m'a fallu pour venir jusqu'à vous.
non, mais c'est très bien comme ça aussi.
Surtout un lendemain de finale, de match.
Oui, pardon, j'ai la voix un petit peu cassée, voilà. J'ai beaucoup crié.
Qu'est-ce que vous avez crié?
C'est la troisième mi-temps de rugby, ça. Hein.
Allez Toulouse, allez les gars, allons-y. je reprenais en cœur ce que les supporters chantaient, donc voilà, ça, ma voix est restée au Stade de France. Si quelqu'un la croise aujourd'hui, merci de me la renvoyer.
Bien. En tous les cas, si vous avez un palmarès, non pas dans le rugby, mais vous avez la carrure d'un rugbyman aussi, hein. Donc sportif aussi également.
Non, un petit peu, oui, j'aime le sport et comme je suis très gourmand. Le sport me permet de contrebalancer un petit peu justement le poids sur la balance.
Oui, et puis de toute façon, comme je dis souvent, hein, quand on est chef cuisinier, c'est quelque part une forme
de sport.
Hein.
Ouais,
c'est aussi de l'art, c'est aussi du sport, hein, et c'est aussi de la poésie souvent.
Alors, vous êtes un missuphile ou un libellocénophile?
D'accord.
Schkoun.
Ah, je ne sais pas.
C'est un collectionneur de menus.
Exact.
Voilà.
Mais pas un collectionneur comme les autres, puisque...
Il faut expliquer aux gens, parce que tout part de là, et ça, c'est une belle histoire de France.
En fait, c'est vrai que des gens se passionnent pour la collection de menus. Mon ami Christophe Marguin, qui est un grand chef à Lyon, est, je pense, le plus grand collectionneur de menus, puisqu'il en a, lui, depuis la Troisième République. Il en a énormément. Moi, je les gardais plus par obligation de travail, d'archivage, parce que quand on recevait un chef d'État, il fallait regarder aussi ce qui s'était passé avant. Et vous savez, les menus, c'est une photo d'un temps passé, d'une histoire, et on voit les enjeux sociétaux, environnementaux d'une époque, et c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai décidé, puisque ces menus étaient... Enfin, je suis pas un collectionneur comme les autres, dans le sens où moi, je les regarde pas au quotidien, je les classe pas, donc c'était un petit peu compliqué.
Oui, avec une larme à l'œil. Hein.
Exactement, ni avec nostalgie. Et du coup, j'ai décidé il y a quelques années, parce que c'est un pan de notre histoire commune à toutes et tous, et j'ai décidé d'en faire don à la Bibliothèque Nationale de France. Donc aujourd'hui, vous pouvez gratuitement aller consulter sur le fonds Gallica ma collection de menus et autres d'ailleurs, parce que beaucoup de livres de cuisine également sont disponibles gratuitement sur ce fonds qui appartient à la BNF, le fonds gourmand de la BNF.
Voilà, alors on précise juste pour les auditeurs, donc Gallica, c'est ce qui permet de consulter les livres en ligne, hein, sans se déplacer. Donc c'est-à-dire que tous ces menus ont été numérisés, scannés, voilà. Et vous allez sur gallica.fr, je crois d'ailleurs.
Mais il y a des livres très rares qu'on peut consulter. Alors vous avez donné plus d'un millier de menus,
oui.
Mais ce qu'on apprend, c'est qu'en fait ces menus, ils sont très rares. Alors comment ça se passe quand il y a un dîner ou un déjeuner d'État? Qui c'est qui fait comment on les fabrique ces menus? Alors, qu'est-ce qu'on met dessus? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
Le menu est un objet en lui-même. La composition du menu, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on choisit le menu?
On parle de l'objet papier.
L'objet menu, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque vous dînez, la reine d'Angleterre est reçue au palais de l'Élysée, il va y avoir 200 invités, on va prévoir peut-être 230, 240 menus, au cas où, au moment où on les installe, il y ait des tâches ou quelque chose comme ça. Mais par exemple, il y a un menu qui est dans le livre, quand le président Nicolas Sarkozy reçoit Barack Obama, ils sont en tête à tête. C'est deux menus. Donc là, vous avez deux menus. C'est ce qui va en faire aussi sa valeur historique.
Et l'idée, c'est de le récupérer.
Quand il reste sur la table, on peut le récupérer. Le chef de cuisine a quand même ce privilège d'avoir pour ses archives personnelles, quand ils sont deux à table, on va en imprimer quatre ou cinq pour les archives, et le chef de cuisine en a un, et donc il est maintenant disponible. J'en ai fait don à la Bibliothèque Nationale de France.
Et il y a des couvertures particulières? Est-ce qu'on demande à des artistes, par exemple, de faire des œuvres particulières?
Selon les époques, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce livre à la table des présidents, c'est que vous pourrez voir différentes couvertures. Il y a eu des grands tableaux tombés dans le domaine public, bien sûr, qui font partie des œuvres de la collection de la France, et des menus beaucoup plus simples, des fois avec des couvertures juste avec le faisceau de Lictor, juste avec les armes de la République.
Ouais, c'est tout l'intérêt du livre, parce que justement vous parlez effectivement à travers ces menus anciens de grands événements qui sont passés à l'Élysée, et pas que d'ailleurs, à l'Élysée ou ailleurs, mais en tous les cas dans le sillage des présidents de la République française, et puis aussi sur les présidents contemporains, puisque vous avez commencé tout jeune sous Jacques Chirac, donc en 97 si je ne m'abuse, puis vous avez gravi tous les échelons de la brigade jusqu'à en devenir chef de cuisine. Donc vous êtes chef depuis quelle présidence? C'est depuis Sarkozy, depuis...
Alors, en fait, moi je suis arrivé, comme, alors ça parlera pas aux plus jeunes de vos auditeurs, mais pour faire ce qu'on appelait le service national, donc mon service militaire en 97 sous Jacques Chirac, et j'ai eu le privilège de servir ensuite les trois présidents qui lui ont succédé.
J'étais même pas majeur en plus, hein.
Si j'étais tout juste majeur, j'avais 18 ans lorsque j'ai fait mon armée, et ensuite j'ai passé des concours jusqu'au titre de meilleur ouvrier de France. Le titre de meilleur ouvrier de France,
le plus jeune,
je suis le plus jeune,
vous êtes encore en titre, hein, le plus jeune ou meilleur ouvrier de France
de
en titre, ouais,
de l'histoire, ouais. Dans la catégorie cuisine,
25 ans, c'est
25
ça,
ans,
c'est ouais,
ça.
Ce qui est jeune, hein.
Voilà. Et en fait ce titre me permet d'accéder donc à des responsabilités, et je passe en fait chef de cuisine sous-chef en 2004, chef de cuisine en 2005. La temporalité fait que le chef de l'époque, qui était meilleur ouvrier de France, Joël Normand, part en retraite. Bernard Vaution, qui était le numéro 2, passe numéro 1. J'étais numéro 3, je passe numéro 2, mais je suis chef de cuisine déjà à ce moment-là. Mmh. Et je passe ensuite numéro 1 lorsque Bernard prend sa retraite en 2013.
Oui, Bernard qui est du coup chef des cuisines, et vous plutôt chef exécutif.
Voilà, chef exécutif, et Bernard part en retraite en 2013, c'est ça, oui, 2013. Et donc je passe chef des cuisines en 2013.
Ouais. Alors, donc ça c'est intéressant aussi, parce que vous parlez de votre prédécesseur qui était meilleur ouvrier de France, et il y a pratiquement toujours eu des meilleurs ouvriers de France à la tête des cuisines de l'Élysée. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'il faut être meilleur ouvrier de France pour être chef de cuisine?
Non, pas du tout. Joël Normand était meilleur ouvrier de France. Bernard Vaution ne l'était pas. Je le suis. Non, c'est pas une obligation. Vous savez, ça fait partie. C'est un titre d'État. C'est un diplôme que l'on passe. Voilà, c'est l'excellence des métiers de l'artisanat. Il y a 196 métiers qui sont représentés dans les meilleurs ouvriers de France. Donc non, c'était pas une obligation.
Alors, en revanche, ça peut être un avantage quand on est jeune militaire qui fait son service à l'Élysée, puis que finalement on reste dans les cuisines de l'Élysée. Est-ce que le fait d'être dans les cuisines de l'Élysée avec un chef meilleur ouvrier de France, ça aide à préparer le concours? Parce que c'est vrai que les épreuves du concours, je pense qu'à l'Élysée, on n'est pas trop mal en matière de cuisine classique, de dressage, etc. On est plutôt,
oui,
à bonne école.
Ce qui est sûr, c'est que la préparation au concours reste une préparation, peu importe où vous êtes. Le concours reste le concours. C'est un concours que vous passez anonymement. 50 jurys pour vous noter. Donc que vous soyez à l'Élysée ou non, ça ne change rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la préparation, il y a de la place. Donc on peut s'écarter. Le chef peut vous détacher pour préparer le concours, voilà, c'est quand même en effet un endroit qui peut se prêter à faire des concours de cuisine, le meilleur ouvrier de France ou autre, et c'est pour ça qu'avec la brigade ensuite on a fait énormément de concours, aussi bien national que des concours internationaux, parce que c'est vrai que la compétition doit quand même se préparer.
Bon, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier? C'est la Légion d'honneur ou le meilleur ouvrier de France? Est-ce que c'est vrai que c'est dans des domaines très différents?
Vous l'avez dit, j'ai eu le privilège, l'honneur de recevoir de nombreuses médailles de la République, de personnalités aussi étrangères, de communes, de villes. J'en suis très fier, j'en suis très honoré. Je les accepte et je les porte avec fierté, parce que ça représente une corporation, ça représente un travail accompli. Le travail de la médaille de meilleur ouvrier de France, c'est pas quelque chose que vous pouvez avoir parce qu'on le décide pour vous. Mmh. C'est quelque chose qu'il faut
s'acquérir. Ça s'acquiert à la force du poignet, comme on dit.
Ça s'acquiert à la force du poignet, avec des heures et des heures et des heures de travail et de sacrifice. Et c'est pas l'aboutissement d'une carrière, puisque c'est le commencement d'autre chose. Mais vous changez, on va dire, de division. Mmh.
Les cuisines, elles sont dans l'Élysée même?
Oui, les cuisines sont dans l'Élysée même.
Mmh. Vous vous souvenez, quand vous êtes arrivé à l'Élysée, la première fois que vous avez aperçu le président Chirac?
Alors je m'en souviens très bien, puisque c'est quand même, imaginez, je suis jeune, j'ai 18 ans, 19 ans, j'arrive déjà, c'est impressionnant, vous rentrez au palais de l'Élysée, un endroit que vous ne connaissez pas, parce que lorsque j'arrive au palais de l'Élysée, il faut comprendre que c'est pas le palais de l'Élysée d'aujourd'hui, avec la médiatisation qui va avec les réseaux sociaux.
Oui, parce qu'avant, maintenant, la télévision va dedans, donc on
partout.
On sait à quoi ça ressemble.
J'ai été énormément médiatisé, donc les gens connaissaient le chef de l'Élysée. Avant, quand moi j'arrive au Palais de l'Élysée. Personne ne connaît le chef de l'Élysée. Personne ne connaît. Il y a eu un reportage ou deux de temps en temps. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc en fait, l'accès, si vous n'aviez pas vu l'émission de télé, bah après, pendant 20 ans, vous ne pouviez pas voir les cuisines de l'Élysée. Mmh. Aujourd'hui, vous tapez cuisine de l'Élysée sur Internet, vous êtes
sur Google Maps.
Vous êtes en immersion. Vous êtes en immersion. Même l'Élysée a fait des visites virtuelles des cuisines. On a organisé pour les journées du patrimoine des visites. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand j'arrive là-dedans, déjà, je suis impressionné parce que par les cuisines en elles-mêmes, vous savez, on arrive par la plonge. Il y a les cuivres, des cuivres qui datent de 1845. Quand vous imaginez tous les chefs qui ont cuisiné,
ils sont dans votre livre. Ils sont en photo. Il y a la provenance.
Toutes les anciennes résidences royales, Compiègne, Fontainebleau, Ville d'Avrel, Château des Tuileries, ainsi de suite. Donc c'est vrai que déjà, vous vivez l'histoire. Vous savez que vous rentrez dans un lieu historique.
Ça marche pas avec l'induction. Hein, on est bien d'accord.
Non, ça fonctionne pas avec l'induction. Donc il faut voilà, vous arrivez dans une cuisine qui est nickel, bien qu'ancienne, mais entretenue plusieurs fois par jour, bien tenue, donc forcément nickel. Et là, c'est déjà impressionnant. Et ensuite, lorsque la première fois que vous voyez le président, c'était pour une j'ai commencé au mois de juin et au mois de décembre, il y avait ce qu'on appelait les vœux au personnel pour le début janvier. Et là, vous rencontrez le président Chirac, bah, c'est forcément impressionnant.
Mais il traînait pas en cuisine le soir, je sais pas.
Non.
Est-ce que c'est un rêve d'imaginer le président le soir tard à l'Élysée, ayant une petite faim, genre Chirac, et aller dans le réfrigérateur ou dans le garde-manger de l'Élysée pour aller voir ce qui se passe en cuisine?
Non, ça reste dans le monde fictif.
C'est un mythe.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Élysée, c'est déjà plusieurs bâtiments, des bâtiments assez grands, et que nous sommes à la disposition du président, mais que le président ne peut pas descendre tout seul dans les couloirs.
Donc le président ne va pas en cuisine, ne traîne pas dans les cuisines de l'Élysée.
Oui, à 4h du matin en Charentaise.
Il peut venir en cuisine, bien évidemment. Tous les présidents pour lesquels j'ai travaillé sont à un moment donné descendus en cuisine. Ouais. On les a tous vus en cuisine, mais pas à 2h du matin.
Ouais. Bon, petite anecdote que vous nous avez confirmée, en revanche, avec Bernadette Chirac. Quand Jacques Chirac vous avait réclamé quelques escargots, elle était passée derrière pour dire « faites plutôt des carottes râpées ». Elle faisait attention à la ligne de son mari, Bernadette.
C'est vrai que c'est une anecdote qui a souvent été racontée, c'est pour ça. Vous savez, nous, on n'est pas là pour livrer les anecdotes.
Non, c'est pour ça que je me permets d'en parler.
Non, mais voilà, à partir du moment où elles sont connues, on peut en tout cas vous les redire et puis vous dire que oui, c'est vrai. En effet, madame m'avait fait demander quelques jours avant en disant « voilà, il faut qu'on fasse attention aussi, bien évidemment, à la santé du président, puisque notre premier rôle en nourrissant, quand vous êtes cuisinier, quand vous nourrissez les autres, c'est avant tout de prendre soin aussi d'eux. Elle avait dit ce week-end, pas d'escargot, parce que le président aimait bien le dimanche avoir ses douzaines d'escargots, puisque ce n'était pas 12 escargots, c'était 2 douzaines d'escargots.
Ouais.
Et donc, elle dit on fera des crudités. Bon, très bien, madame, on fera des crudités. Bon, et si le président vous demande, vous dites qu'il n'y en a pas. Bon, très bien. Et le week-end arrive, donc on prévoit les crudités. Et là, le président me fait appeler au début du déjeuner. Il est avec madame, il est à table avec madame. Il dit, chef, écoutez, je sais qu'il n'y a pas d'escargots. J'adore les crudités, mais prenez le temps qu'il faut, trouvez-moi des escargots. Bien, monsieur le président.
Et donc, et là, il n'y a plus de débat.
On a trouvé des escargots et on a fait des escargots. Il n'y a pas eu de
débat. Ils étaient cachés sous un fourneau, mais on les a retrouvés quand même.
Non, vous savez, on prévoit quand même.
Oui, puis ça, c'est des choses qui peuvent se garder.
Tout à fait. Non, puis on prévoyait, c'est-à-dire que si le président on les avait pas ce dimanche-là, peut-être qu'ils nous en auraient demandé lundi, mardi.
Vous êtes allé dans le jardin de l'Élysée, petit, non, chercher
même pas,
les escargots.
Même pas. Non, on a une très belle maison installée dans l'est de la France, la maison Jacobillet, qui fait des très beaux escargots.
Voilà. Oui, alors vous citez un fournisseur. C'est vrai, quand on regarde votre compte Instagram, on voit qu'à l'Élysée, vous receviez énormément de produits de certains fournisseurs, qui ne sont pas forcément des fournisseurs de l'Élysée, et qui vous envoient ces produits. Pourquoi ? Parce que pour tester, pour éventuellement travailler avec vous.
Oui, alors ça se passe pas comme ça, puisque vous savez, les fournisseurs du Palais de l'Élysée, enfin si vous le savez pas, je vous l'explique, c'est quelque chose de très rigoureux, très strict, qui sont soumis au code des marchés publics. C'est pas nous qui choisissons les fournisseurs, c'est tout un processus qui fait qu'avec des appels d'offres, qu'on choisit les fournisseurs. Après, la cuisine de l'Élysée se doit d'être la vitrine de ce terroir français, et une fois de plus, de celles et ceux qui font ces produits et cette gastronomie. Derrière un produit, il y a une femme, il y a un homme, il y a des gens qui se lèvent, il y a tout un travail. Et donc, tous ces savoir-faire, il faut les mettre en avant. Et c'est vrai que, moi, vous savez, si vous regardez mes comptes sur les réseaux sociaux, vous voyez quasiment rien de ma vie, parce que le but, c'est pas ça, c'est pas de raconter raconter ma vie, mais c'est de mettre en avant tous ces produits-là. Et à chaque fois que j'ai été sollicité, ben en effet, j'ai pu faire une publication, parce que si derrière, ça met en avant tous ces savoir-faire, toutes ces régions, tous ces terroirs, et ben c'est avec grand plaisir. Et je suis très content quand certains chefs, ou même des particuliers, ont pu découvrir grâce aux réseaux sociaux tel et tel produit. Et si ça peut servir nos entreprises françaises, nos agriculteurs, nos producteurs, j'en suis très fier.
Oui, d'ailleurs, quand j'ai fait votre présentation, hein, en disant que vous étiez couvert de récompenses, mais pas d'étoiles Michelin, que vous étiez un des chefs les plus connus, mais pas de restaurant, j'aurais pu dire aussi que il a 174 000 abonnés Instagram, et pourtant il n'est pas influenceur. Et apparemment, c'est monté très vite avec votre notoriété, alors que pourtant, justement, bon, les influenceurs montrent un petit peu leur vie de tous les jours, et c'est ça qui leur fait avoir des abonnés.
Ouais.
Vous, c'est exactement le contraire. Vous parlez des autres.
Ouais, j'ai 250 000 sur Twitter et un peu, je sais pas combien sur Facebook. Oui, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Bon, tant mieux. Je vous avoue que ça, enfin, je regarde pas ça tous les matins. Mais non, moi, je fais tout ce que je fais, c'est bien évidemment bénévolement, gratuitement. Et je pense qu'on influence que les gens influençables, et moi c'est pas le but, c'est plutôt par souci de transmission et d'éducation, et de dire aux gens voilà ce qui se fait, et voilà ce qui est bon, j'ai testé tel produit, c'est bon.
Super.
Bien, Guillaume Gomez est notre invité jusqu'à 13h. Manu, on a du retard au niveau des jeux concours. Je ne sais pas où vous avez la tête.
Ah oui, absolument. Aujourd'hui, on va gagner le livre d'un mof, hein, puisqu'on va gagner à la table des présidents, hein, le livre de Guillaume Gomez. C'est à la fois un livre de cuisine et un livre d'histoire. Hein. Ça se lit. Ça se lit vraiment très facilement. On peut le lire comme un livre d'histoire ou comme un livre de cuisine. Donc, double entrée très intéressante. Et puis, on a eu quelques petits soucis techniques, hein, la semaine dernière, Philippe.
Parler de soucis techniques.
Ouais. Alors, le concours qui vous permettait de gagner des Frenchies glacées de chez Emmanuel Rion, ah ouais. Lui aussi meilleur ouvrier de France glacier, champion du monde de pâtisserie. On a que des champions aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir gagner aussi des Frenchies. Donc, tout ça, ce sera en ligne sur Instagram à partir de 13h précise.
Voilà, pétante.
Pétante sur mon Instagram, Mariani, M-A-R-I-A-N-I point Manuel, M-A-N-U-E-L. Et puis, on vous retrouve après une petite pause.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Alors, on parle de l'histoire de France à travers l'assiette, Manu, ce matin, et notre invité.
Absolument, avec Guillaume Gomez, hein, qui est ancien chef de l'Élysée, mais qui est toujours lié à l'Élysée, puisqu'il est représentant personnel du président de la République pour la promotion de la gastronomie française. Ça tient sur une carte de visite, ça de...
Oui, j'en ai pas encore fait, mais oui, ouais. Ça doit tenir.
Ouais, chef de l'Élysée, c'est plus simple. Hein. Oui, effectivement, et même on parle de diplomatie dans l'assiette, hein, effectivement, puisque... quand on reçoit des grands chefs d'État, quelque part, on vend le savoir-faire français au niveau de l'industrie, au niveau de la technologie, mais aussi la gastronomie. C'est important. Quelque part, vous devriez être rattaché presque au Quai d'Orsay. Hein,
Je suis rattaché au Quai d'Orsay, figurez-vous.
Ben voilà,
bravo.
Donc, diplomatie dans l'assiette.
C'est un rôle d'ambassadeur de la gastronomie, c'est un rôle d'ambassadeur thématique. Donc, je suis rattaché aujourd'hui au Quai d'Orsay pour faire rayonner justement cette France à l'international, notamment.
D'accord. Alors donc, beaucoup de chefs d'État viennent. C'est vrai qu'en préparant la question avec Philippe, on se posait la question, mais quand il y a des chefs d'État israéliens ou qui viennent de pays musulmans ou certains peut-être qui sont véganes, est-ce qu'on adapte le menu, c'est-à-dire est-ce qu'on fait parfois de la viande cachère, de la viande halal ou des menus véganes, comment alors, ça se passe, est-ce qu'on vous envoie avant, est-ce qu'il y a un protocole, on vous envoie les infos avant?
Oui, tout est réglé quand vous avez un chef d'État étranger qui arrive en France. À partir du moment où il rentre dans l'espace aérien jusqu'au moment où il va en ressortir, toute sa visite est calée avec les services du protocole. De la même façon, quand le chef de l'État français se rend à l'étranger, le protocole français prend attache avec le pays. Donc nous, on va recevoir en cuisine, en ce qui nous concerne, dans la visite, nous, on va s'occuper de ce qui concerne la nourriture. Donc on va recevoir avec le protocole ce qu'on appelle les interdits alimentaires, qu'ils soient d'ordre religieux, allergène ou de goût, tout simplement. Mm-hmm. Si, je sais pas, tel chef d'État n'aime pas les artichauts.
Voilà.
Bon, ben, on va pas lui en faire.
Ah, ça, c'est pas Philippe, alors.
Tout simplement. Et en fonction de ça, on va faire une proposition en fonction de tous ces interdits. on va faire une proposition de menu. On peut également se renseigner vis-à-vis du cuisinier, du chef de l'État invité, si je le connais, notamment à travers le club de chefs des chefs. Et puis regarder aussi ce qu'on
le
club des chefs des chefs, qui est un club qui réunit les chefs de cuisine des chefs d'État.
Donc vous êtes président, je crois.
Non, c'est Christian Garcia, le chef
de Monaco,
qui en est le président. Mais par exemple, je reçois le chef d'État américain, je peux passer un petit coup de téléphone ou contacter Christetta Comerford, qui est la chef de la Maison Blanche. Ce qui va pas aimer, je le sais déjà, puisque je l'ai par le protocole, mais des fois, on peut savoir qu'est-ce qui va lui faire plaisir, de quoi il a envie, et c'est quoi les tendances du jour, et ainsi de suite, comme ça, pour toujours faire plaisir à la personne qui est reçue au Palais de l'Élysée.
Oui, et donc, surtout si Bernadette a programmé des carottes râpées, peut ne pas plaire.
Oui, non, pour les visites officielles, pour les visites d'État, on essaye toujours de mettre, bien sûr, les petits plats dans les grands, et de montrer l'ensemble du savoir-faire français, vous l'avez dit, à travers la table, bien sûr, mais pas juste l'assiette. Le nappage,
la vaisselle,
la déco, la décoration, la musique, l'ambiance musicale de la garde républicaine, le service service en salle qui est bien sûr très important. Et par rapport à ça, on va proposer un menu au chef de l'État. Ce sera toujours le chef de l'État qui va choisir le menu pour son invité.
Alors moi j'ai déjà mangé à l'Élysée, mais j'ai pas vu cette déco là parce que moi j'étais dans la salle de presse à droite quand on rentre dans la cour.
Pas tout à fait le même menu.
Alors on a goûté la cuisine de Guillaume de Gomez, mais c'était des petits clubs sandwich pour la presse. Hein.
Oui. Mais comment c'est que vous êtes en train de travailler, on ne voudrait pas que ça prenne trop de temps non plus.
Alors ça c'est intéressant de voir le circuit. On a Karim des Jumeaux qui est avec nous sur ce plateau, la boucherie des Jumeaux qui fait de la viande d'exception et de la viande halal d'exception. Finalement, quand un président mange halal, comment on fait à l'Élysée?
Alors déjà, il faut comprendre que on a rarement eu des demandes de cuisine, soit cachère, vous l'avez dit, soit halal. Ça peut nous arriver d'en faire. On peut s'appuyer aussi pour des questions d'organisation sur un traiteur spécialisé lorsqu'il y a besoin, en fonction, de toute cette traçabilité, de toute la réglementation, et pour rassurer aussi nos invités, pour montrer que l'on fait exactement ce que l'on nous demande. Mais j'en discutais justement hors antenne, et c'est important pour moi, et puis pour d'autres
Karim,
chefs,
ouais.
Voilà, avec Karim, de voir qu'il y a des gens qui tendent vers la qualité et qui ont cette démarche de faire des produits de qualité. Et en effet, peut-être qu'aujourd'hui on ne le fait pas, mais dans quelques années, dans différents restaurants, dans différentes ambassades, dans différents ministères, on aura ces produits de qualité.
Alors, il y a 60 menus dans votre livre que vous avez sélectionné, des menus de l'histoire.
Et les recettes.
Et les recettes qui vont avec, ouais. Des dîners privés de présidents ou des dîners d'État. Par exemple, vous avez deux repas à l'Élysée avec le président algérien Bouteflika. À l'invitation de Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il mange, Bouteflika?
Je vous laisse découvrir à travers le livre tous ces menus, mais il mange, de mémoire, je crois que vous avez la recette du gazpacho qui avait été fait à l'époque. Vous avez on a parlé tout à l'heure des asperges. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont à chaque fois, bien sûr, des menus de saison. Et le but de ce livre, c'est de vous faire découvrir et rentrer un petit peu dans l'histoire. Déjà, c'est un livre historique. À part entière, il intéresse énormément de gens. Il faut comprendre que c'est le seul livre, aujourd'hui en tout cas, à avoir 3 écrits de 3 présidents de la République. Il n'y a pas un autre livre, alors là, de cuisine, mais même autre que cuisine, où vous aurez 3 témoignages de présidents de la République.
Oui, dont un en exercice.
Il y a Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande qui ont écrit pour le livre. Le président Chirac, bien sûr, n'a pas pu,
évidemment.
Étant décédé juste au moment de la sortie du livre, bien que quand le projet est né, le président avait accepté.
Oui, alors, je voudrais juste préciser une chose, Guillaume, je me permets de vous couper parce que c'est important. Si vous vendez aussi bien le livre, c'est pas pour votre fortune personnelle, parce que on a oublié de le dire, mais ce livre, je veux dire, tous les bénéfices, toutes les ventes sont reversées intégralement pour des œuvres caritatives.
Des associations.
Je le précise. Donc,
de mes 5 livres, donc je peux facilement en faire la publicité.
Et, oui, les 5 livres de Guillaume.
L'intégralité des droits.
Donc quand Guillaume vous parle de ses livres avec passion, c'est pas pour son porte-monnaie, c'est aussi pour des œuvres caritatives.
C'est pour de belles causes.
Et aussi parce qu'il y a beaucoup de choses, belles choses à en dire.
Et surtout, c'est un livre avec lequel vous pouvez vous amuser. Vous avez envie de réunir à la même table des amis, vous pouvez leur faire l'entrée servie au président Bouteflika, le plat servi à un président américain et le dessert servi à la reine d'Angleterre. Il n'y a qu'un livre de cuisine qui peut vous permettre de mélanger tout ça temporaire. Enfin, le temps n'a plus d'importance.
Ouais, réunir Arafat et Netanyahou à sa table.
Voilà, et si beaucoup de choses peuvent diviser les hommes, la table réunie.
Ouais. Est-ce qu'il y a des invités prestigieux qui demandent des doggy bags ou par exemple la recette de quelque chose qu'on leur sert?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu des invités qui nous ont demandé des recettes. Alors, je tairai bien sûr les noms.
Oh.
Ça nous est arrivé de, en effet, d'avoir un contact, notamment avec les chefs, un petit peu plus tard, en disant, tu sais, le patron, la patronne, il a apprécié ci, il a apprécié ça, et on donne facilement nos recettes. Et ouais, vous savez, c'est un métier de transmission, et ça se fait. Et il y a eu, en effet, des fois, quelques chefs de l'État qui, ou en revenant, demandaient, mais on mangera si à leur chef. Vous savez, si le chef, il nous prépare à ci, il nous prépare à ça. C'est arrivé.
Ouais, alors, vous avez le devoir de réserve, évidemment, hein, par rapport aux invités de l'Élysée. Par contre, sur vos réseaux sociaux, vous n'avez pas toujours de réserve. Hein. J'ai lu que vous aviez écrit un jour, ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux, c'est que tu dis autant de conneries de mecs qui n'ont jamais pris une tarte dans la tronche et qui s'improvisent boxeurs.
Oui, c'était pour un beau combat,
voilà,
de boxe.
C'est pas fini, hein, parce que vous dites sûrement les mêmes qui n'ont jamais fait à bouffer et qui se pensent critiques gastronomiques. Alors, je ne me suis pas senti visé, parce que moi, je cuisine super bien. vous avez quand même une certaine liberté de parole, de ton.
Oui,
parce que vous n'êtes pas considéré comme un diplomate et tout. Voilà.
Non,
c'est ça aussi qui est intéressant. Oui.
Maintenant, je
oui, un peu plus.
Attention, mais c'est vrai que c'était Paquito à l'époque. C'était un beau combat de boxe qui se préparait. Et moi, je suis boxeur, j'ai fait 25 ans de boxe, dont tout près de vos studios pendant quelques années. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu énervant de voir les gens qui critiquent les cuisiniers à longueur de temps. Non pas les critiques gastronomiques, dont c'est le métier. Et la critique fait avancer quand elle est constructive et quand elle est faite. Mais les gens qui vont manger au restaurant et se pensent critiques culinaires, ils ne se rendent pas compte le travail derrière pour une équipe, pour un restaurateur. Bien évidemment, on ne peut pas faire parfait tout le temps. Et vous savez, quand vous êtes restaurateur, quand vous êtes chef de cuisine, quand vous avez une entreprise, quand vous faites 80 couverts, 100 couverts, 200 couverts par service tous les jours, et quand il y a une personne qui vient dire « Ah, mais là, c'était un peu ceci, un peu cela, un peu ça. » Bon, voilà. Et c'est vrai que, oui, j'avais peut-être passé un petit coup de gueule. Bah, ça m'arrive de temps en temps.
Ouais, on a parlé de votre engagement dans beaucoup pour beaucoup de causes caritatives ou solidaires. Et puis, on en avait parlé, effectivement, pendant le confinement avec Stéphane Méjanès, le gros Barnum que vous aviez monté avec TikTok également pour donner à manger aux soignants. Mais alors, vous avez aussi assez impliqué pour les jeunes handicapés. Et alors, dans ce cadre-là, il y a un jeune chef qui s'appelle Pierre-Henri
Masson,
que vous connaissez bien. Alors, ouais. Qui est Pierre-Henri, expliquez aux auditeurs.
Pierre-Henri Masson, c'est un jeune cuisinier trisomique qui a remporté un concours de cuisine, et c'est très étonnant, parce que il faut le comprendre. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais Pierre-Henri, il a changé la vie d'énormément de gens. C'est un jeune trisomique qui a remporté un concours de cuisine. Un concours de cuisine, c'est pas
un concours de cuisine pour des trisomiques uniquement.
Non, c'est un concours de cuisine. C'est un concours de cuisine. Il fait à manger. Il y a un jury qui ne voit pas, qui envoie. On goûte et il remporte la cuisine. C'est un concours international des équipes. D'ailleurs, c'est le Maroc qui a remporté la dernière édition il y a 2 ans. L'AMSAT de Rabat. C'est un concours international des équipes qui viennent du Maroc, du Luxembourg, de Belgique, d'un petit peu partout, de France bien sûr. Et Pierre-Henri a remporté ce concours. Il est aujourd'hui cuisinier dans une municipalité. Il n'est pas dans un lieu adapté, on va dire, au handicap. Il est cuisinier comme les autres. Et il a changé énormément le regard que les gens peuvent porter sur le handicap, au sein même de ma brigade, quand il est venu cuisiner avec nous. Et même pour les autres trisomiques, puisque suite à sa venue, qui a été un petit peu médiatisée, c'est vrai, et tant mieux, et pas que sur les réseaux sociaux, et tant mieux si ça sert à changer la vision que portent les gens sur le handicap, des jeunes trisomiques, un autre notamment, m'a écrit en disant, mais j'ai vu que vous aviez reçu un jeune, moi je veux venir faire un stage. Et donc j'avais laissé un message à la maman, et la maman m'appelle très émue, presque en pleurs, en disant, écoutez chef, je suis désolé, mon fils vous a écrit, mais en fait il est trisomique. Je dis, j'ai bien compris qu'il est trisomique, il me l'a dit.
C'est pas grave, on
va le prendre en stage. Et la mère, mais encore aujourd'hui, je crois qu'elle y croit pas. Et son fils est venu, et grâce à ça leur a ouvert des portes. Et donc, vous voyez, c'est le bon côté des réseaux sociaux, c'est que si ça peut permettre de changer la vie de certaines personnes et de montrer les bons côtés et pas que les mauvais, c'est comme ça qu'il faut se servir des réseaux sociaux.
Ouais, vous en servez avant tout pour ça. Vous parlez de temps en temps de rugby, mais
oui, un petit peu quand même.
Mais surtout de belles causes.
Tiens, justement, les réseaux sociaux, ça sert à jouer, Manu. Dans un instant, tirage au sort de deux jeux.
Oui, à 13h, connectez-vous sur Instagram, Mariani, M-A-R-I-A-N-I, .manuel, M-A-N-U-E-L. Et vous pouvez vous inscrire à deux jeux, deux meilleurs ouvriers de France. Vous pourrez gagner le livre à la table des présidents de Guillaume Gomez, que vous recevrez à la maison. Et puis, également, des franchises, hein, des mochi, mais à la façon française, avec de la guimauve de chez Emmanuel Rion, meilleur ouvrier de France, glacier et champion du monde de pâtisserie. Voilà, à 13h.
Dessus de table jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
On est dans les coulisses des cuisines de l'Élysée aujourd'hui, Manu.
Absolument, avec Guillaume Gomez, ancien chef de l'Élysée et qui est désormais représentant personnel du président de la République pour la promotion de la gastronomie française. Un sujet très important, hein. C'est de la diplomatie à l'état pur, puisque la France, hein, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi sa gastronomie. Merci d'être avec nous, Guillaume. Alors, juste avant, on parlait un peu de choses caritatives et autres. On vous remercie d'autant plus d'être avec nous aujourd'hui qu'en plus, vous avez fait une petite entorse au contrat avec des livres et des stars. Donc, est un festival de lutte contre l'illettrisme. Hein, vous y êtes tout le week-end. Vous avez juste fait un petit passage chez nous entre oui, 12 et 13.
Comme on en parle, voilà.
Voilà. Mais du coup, c'est l'occasion aussi, hein, comme on vous a volé un petit peu à eux, c'est l'occasion d'en parler. Donc, c'est aujourd'hui et demain, place de Fontenoy dans le 7e. Donc, il y a des dédicaces, des rencontres, des conférences, des concerts, des lectures publiques. Hein. Vous allez sur Internet. De toute façon, vous tapez des livres, des stars, vous allez trouver tout le programme. Et puis, vous y êtes les deux jours.
Moi, j'y suis les deux jours.
Sauf là, entre 12h et 13h. Hein,
avec 58 autres personnalités du monde du spectacle, de la chanson, du foot. Voilà, enfin, il y a toute la liste.
Voilà, et donc, si vous avez déjà le livre, hein, La table des présidents, voulez-vous le faire dédicacer, vous allez voir Guillaume. Et
sinon, il y a un libraire à l'intérieur qui, à l'entrée, vend les livres de tout le monde, de Michel Drucker, de Linda Hardy, d'Estelle Lefébure, de toutes celles et ceux qui sont là.
Donc, c'est l'occasion. Et si vous voulez aller faire un selfie avec Guillaume Gomez, hein, parce qu'on vous appelle Mister Selfie, un peu dans le monde de la restauration.
Oui, parce que c'est vrai que je refuse jamais de faire une photo avec un jeune sur un concours, avec un producteur, avec un restaurateur, et du coup c'est vrai qu'il y a eu énormément de photos de moi sur les réseaux sociaux comme ça, et puis j'ai appris un petit peu au chef aussi à maîtriser ça, parce que souvent les gens regardent l'écran et pas l'objectif, et du coup ça vous fait une tête bizarre. Donc après voilà.
Parce que pour être tout à fait honnête, j'ai longtemps cru que vous aviez un community manager qui vous suivait partout, parce que vous avez un Instagram très actif qui est bien fait.
Pour l'incarner, je pense qu'il faut si les gens vous suivent, c'est justement parce que c'est vous qui le faites.
Oui.
Je dis pas de mal du community manager, mais c'est
non mais bon, ça c'est clair. Alors moi, en préparant l'émission, j'ai découvert une chose, c'est que je vous ai peut-être croisé. Alors j'ai pas mangé votre cuisine à l'Élysée, hormis les sandwichs, hein, mais j'ai peut-être goûté votre cuisine quand vous étiez jeune, chez un certain Johnny Benariac, hein. Je me souviens, au début des années 90, j'avais goûté un lièvre à la royale dans un restaurant que j'avais mis dans le guide Paris pas cher à l'époque, au début des années 90. Et c'est un restaurant où vous avez travaillé, ça s'appelle le Traversière. Alors, vous avez fait des petits restaurants de quartier comme ça. Alors, le Traversière, c'est un très bon restaurant.
J'ai commencé chez Johnny Benariac.
C'est un vrai bistrot de quartier, parce qu'on a l'impression que vous avez été toute votre vie à l'Élysée, presque.
Non, j'ai fait près de 25 ans à l'Élysée, mais j'ai presque 30 ans de cuisine en tout comme carrière. Et j'ai commencé avec Johnny, d'ailleurs, puisque j'ai été son premier apprenti. Il venait de racheter le restaurant lorsque j'ai commencé chez lui, et c'est vrai que c'était une cuisine de quartier, du marché, avec tout était fait maison. Bon, c'était encore à l'époque où on se posait pas la question, les restaurateurs faisaient maison de toute façon, et on faisait tout de A à Z, des terrines, la pâtisserie, on faisait tout, et c'est vrai que j'ai énormément appris. Au-delà des recettes, il m'a transmis bien sûr des valeurs et cet amour du métier, et aujourd'hui c'est mon ami.
Oui, et puis il vous a appris, je pense aussi, à taper dans le dur, parce que pour le connaître, je pense que quand on est chez lui, les nuits sont courtes.
Les nuits sont très courtes. Ouais. De toute façon, vous savez, il y a rien sans le travail. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. J'avais 14 ans, c'était des journées de 15 heures par jour, mais ça me choquait pas parce que c'était comme ça, de toute façon. Et c'était à l'époque, c'était le siècle d'avant. C'était une journée de repos par semaine. Donc, et moi, j'habitais dans le 93 et j'avais plus d'une heure de RER pour rentrer. Mais c'est comme ça qu'on apprend son métier et cette passion. Et tout de suite, on était dans le travail, oui.
Et c'est le meilleur lièvre à la royale que j'ai mangé de toute ma vie.
Mais c'est le meilleur dans beaucoup, beaucoup de domaines. Moi qui ai fait beaucoup de restaurants. Je m'en rendais pas compte à l'époque, parce que j'étais dedans, je pensais que c'était comme ça partout. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je commence la cuisine, moi, je suis issu d'un milieu, j'ai même quasiment jamais mangé au restaurant. Mmh. Quand je commence la cuisine, j'ai un de mes oncles qui est cuisinier, qui tenait un restaurant marocain dans le 12e à l'époque. Donc le seul restaurant où je mangeais, c'était chez mon oncle et ma tante. Mais sinon, voilà, j'avais jamais mangé, poussé la porte d'un restaurant, bistrot, gastronomie, même certains produits, j'avais jamais vu. Mmh.
Alors vous avez donc des origines marocaines, ça vous nous l'aviez dit avant l'émission.
J'ai de la famille, j'ai de la famille au Maroc. Ma tante s'est mariée avec un Marocain et moi j'ai des origines espagnoles. Et l'histoire entre l'Espagne et le Maroc, donc mon père est né à Ricon del Médic, du côté de Tétouan, donc qui était à l'époque l'Espagne, qui est maintenant au Maroc.
Alors vous avez justement vous avez des origines espagnoles. Vous êtes fan de rugby. Alors on dit, est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine chez Guillaume Gomez?
Eh ben ceux qui gagnent disent chocolatine souvent, mais moi je dis pain au chocolat. Je suis capitaine de la team pain au chocolat.
C'est pour ça que je vous pose la question, parce que sur vos réseaux sociaux, je me dis mais non, pourquoi il dit pain au chocolat tout le temps?
À Toulouse, chez nous, on dit chocolatine.
Bah voilà. Oui, vous êtes quelques-uns à lire, mais on s'en amuse.
On n'est pas quelques-uns.
On a essayé de trouver des failles chez Guillaume Gomez, et la seule qu'on a trouvée, c'est qu'il est, rugby sud-ouest hispanisant. Et il dit pain au chocolat. Ouais, alors là,
parce que j'ai beaucoup de copains du côté de Toulouse, mais par exemple, je soutiens aussi nos amis de Perpignan, de l'USAP, et eux disent pain au chocolat. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci. Et puis on peut des fois ne pas être d'accord même avec ses amis.
Oui, mais bien sûr. C'est aussi pour ça que c'est des amis.
Exactement.
Parce qu'ils acceptent les différences.
Je voudrais revenir aux cuisines de l'Élysée. Est-ce que l'argent a de l'importance quand on fait un repas? Est-ce qu'il y a une enveloppe? On dit voilà. On a tant de couverts, il faut que ça rentre dans 40, 50, 60, 100 euros par personne.
Alors, ça se passe pas tout à fait comme ça, parce que quand vous faites choisir le menu, vous pensez bien, lorsque vous proposez, je sais pas, des œufs quelque chose, ou une salade de langoustine, un poulet aux artichauts, ou un turbo aux oursins, si vous prenez langoustine turbo, ça va coûter 70 euros, si vous prenez les œufs, le poulet, ça va coûter 15. Donc, en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Par contre, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, tout le budget, tout est regardé, notamment par la Cour des comptes. En ce qui concerne le personnel, on a 3,60€ pour faire à manger, entrée, plat, l'étage, dessert.
Ah, pour vous
Mais pour tout le personnel. Quand je dis le personnel, c'est du secrétaire général aux agents.
Oui, parce que vous nourrissez aussi vous occupez aussi de la cantine de l'Élysée, entre guillemets.
Il y a tout le monde.
Alors, le secrétaire général de l'Élysée, il a quand même un poste important.
Oui, mais
3,60€.
Il faut comprendre que c'est un endroit où les gens travaillent. Donc, hormis lorsque ce sont des repas officiels ou des repas de travail du président de la République, où là, en effet, le budget peut monter.
Est-ce qu'il y a une enveloppe ou c'est, en fait...
Oui, il y a un budget annuel. Alors, je vous invite à lire le rapport de la Cour des comptes, qui fait quelques tonnes de pages, avec plaisir. Mais en tout cas, on sait exactement au jour le jour combien est-ce que ont été dépensés et où est-ce que c'est parti, bien évidemment.
Oui, comme dans un restaurant, finalement. Enfin, tous les restaurateurs ne savent pas faire ça, mais un bon restaurateur est censé vérifier ses coûts.
Moi, je le revendique. Je suis un chef de restauration collective. Donc, dans la restauration collective, vous êtes obligé de tenir un budget. Vous êtes obligé, comme dans une école, comme dans un hôpital, comme dans une cuisine d'entreprise. Et donc, c'est un lieu, l'Élysée, c'est un lieu où l'on travaille. C'est une restauration d'entreprise. Donc, on sait. On peut pas forcément en amont savoir combien on va dépenser. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du dîner, on sait exactement combien on a dépensé. Que vous ayez reçu la reine d'Angleterre ou que ce soit pour faire, par exemple, le service de presse. Vous parliez tout à l'heure
des petits sandwichs.
Des petits sandwichs, de tout ça. Tout est calculé pour tenir un budget. Et à la fin de l'année, on sait exactement au jour le jour ce qui a été dépensé.
Et là, donc, votre livre parle de cette collection de menus. Est-ce que quand il y a un événement international qui se passe, vous allez consulter les menus précédents pour voir ce qui s'est fait, ce qu'on a déjà servi?
Oui.
En quoi cette histoire, elle est importante pour le cuisinier d'Élysée?
Déjà, c'est important. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces menus, déjà, nous permettent de voir qu'à une certaine époque, les enjeux n'étaient pas les mêmes. La saison, personne s'en occupait. L'environnement, il y a 70 ans, personne s'en occupait non plus. Aujourd'hui, ça a changé. On fait bien évidemment attention à la saison, à l'impact de notre assiette sur l'environnement, sur le mode de production, jusqu'à la méthanisation et la valorisation de nos déchets. Donc tout est important. Et quand vous recevez un chef d'État, il faut savoir ce qu'on lui a servi la dernière fois, pour pas qu'il dise tiens, ça fait deux fois que je viens en cinq ans, on mange toujours pareil. Donc voilà, on a besoin de savoir ça. Et de la même façon, par exemple, c'est une anecdote que j'ai déjà eu l'occasion de raconter, mais par exemple la reine d'Angleterre qui affectionne le foie gras, et c'est important pour toute la filière qui produit du foie gras, la reine d'Angleterre, à chaque fois qu'elle est venue, elle a mangé du foie gras, et la seule fois où on a failli ne pas lui en servir, c'est elle qui a demandé à avoir du foie gras.
Enfin, d'accord, du foie gras, mais du foie gras amélioré quand même. Hein. C'est bah, toujours voilà. Ouais.
Non, le produit, il est ouais. bon intrinsèquement. Nous, on a juste à le sublimer peut-être un petit peu, à le travailler, mais des bons produits. Vous savez, celles et ceux qui font cette gastronomie française, on parle beaucoup des chefs, et j'en suis très fier, et j'en suis très heureux. Mais c'est pas juste ces artisans des métiers de bouche, c'est avant tout nos producteurs et nos éleveurs.
Oui, vous sans les mettez eux, beaucoup en avant.
Mais hein. parce que sans eux, moi, je peux rien faire à part parler. Mais si je dois faire à manger, j'ai besoin de tout ce travail en aval.
Mais là, vous avez du recul sur 25 ouais. ans. Votre livre part en gros de la présidence, même c'est Coty d'ailleurs. Vous êtes juste avant De Gaulle, ouais. hein, Coty. Ouais. On est au milieu des années 50. Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont la France reçoit aujourd'hui ses hôtes?
Beaucoup de choses ont changé, surtout sur les enjeux. Alors oui, on a décidé au départ, ça devait être que la 5e République, et on a décidé de mettre...
Il y a un bout de 4e.
Voilà, on a ouais. décidé de mettre ce repas avec le président Coty, parce qu'en fait, c'est la première visite de la reine d'Angleterre. Jeune chef d'État, c'est sa première visite en France. Donc je trouvais que c'était intéressant de mettre
petit clin d'œil,
ce
ouais.
menu de la reine d'Angleterre. Et surtout, vous voyez l'évolution des menus qui faisaient 10, 15 plats. Aujourd'hui, c'est entrée, plat, fromage, dessert. Sous Nicolas Sarkozy, c'était entrée, plat, dessert. Donc c'est important, ces menus vous permettent de voir justement l'histoire à travers la table. Et Talleyrand l'a dit, voilà, depuis cette diplomatie culinaire est importante. Et surtout, vous voyez ce qui a changé. Il y a 30 ans en arrière, on ne parlait jamais des producteurs, on ne parlait jamais de la zone de production. Jamais on n'aurait parlé du cresson de Moigny-sur-École, de la volaille de Milly-la-Forêt, de la poule noire d'Alsace. Voilà, on mettait volaille de Mideuil. Ça voulait tout et rien dire pour personne. Mais on ne mettait pas ces régions en avant et ces talents en avant. Et aujourd'hui, c'est ce qui a changé.
Oui, c'était des noms pas très sexy. Boulard de Mideuil, c'est très bon, hein. C'est avec de la truffe.
Bah, c'était peut-être etc. sexy mais, pour l'époque. Aujourd'hui, mais ça parle Mideuil, plus oui, aux gens.
C'était pas très vendeur.
Donc, sans renier ce qui s'est passé, ouais. on évolue. Et bien évidemment, les enjeux, je vous l'ai dit tout à l'heure, sociaux, sociétaux, environnementaux, sont aujourd'hui au cœur des menus.
C'est fini, le homard thermidor et.
Oui, ça a pas de sens. Je le pense.
Oui, puis c'est une cuisine un peu datée, je pense que on.
Oui, non, c'est-à-dire on peut continuer de faire du homard thermidor, mais en
l'allégeant un peu,
en le faisant voilà évoluer. Ouais. On l'a allégé, c'est moins gras, c'est moins cuit. C'était pas des quelque chose où on laissait sous 2 cm de gelée et ainsi de suite. Donc.
Alors vous occupez aussi des repas personnels hein, du président de la République et donc il y a une petite anecdote. Alors là bon pareil on dévoile rien puisque vous l'écrivez dans le livre. Il y a le menu très particulier que Emmanuel et Brigitte Macron se sont fait servir pour la Saint-Valentin. Apparemment ils ont mangé des pâtes.
Alors je vous avoue que je
vous en souvenez plus.
Non, c'est dans le
non.
Ah, c'est peut-être pas dans le livre. Alors peut-être
c'est, c'était dans le précédent. Mais par contre, Sarkozy Sarkozy a servi des pâtes à Berlusconi quand il est venu à l'Élysée.
Ah, des cannelloni
au parmesan.
Exactement.
Alors ça c'est quand même la France.
Cannelloni.
Et alors en dehors des banquets, etc., la cuisine de tous les jours qui est servie au président.
C'est du quotidien. Vous savez, à l'Élysée, on fait aussi bien du sandwich que du dîner de gala. Donc après, c'est du quotidien tous les jours. Ça peut être des salades, du poulet rôti, des œufs, une omelette, une soupe. Tout se fait.
En tout cas, j'ai appris dans votre livre que Chirac parlait russe.
Oui.
Voilà.
Couramment.
Mais couramment. Ce que tout le monde ne savait pas.
Couramment.
À Poutine.
Tout à fait.
Ah, c'est... Pour avoir des apartés, ça devait être sympa.
Exactement.
Ça. Allez, le livre de Guillaume Gomez.
Oui, à la table des présidents. Alors, achetez-le et rachetez-le. C'est pour une œuvre caritative, comme tous les livres de Guillaume Gomez. C'est aux éditions du Cherche Midi. Ça s'appelle À la table des présidents. Et si vous voulez le gagner, mais là, il n'y en a qu'un à gagner, il ne faut pas exagérer quand même, vous allez d'ici 10-15 minutes sur mon Instagram, Mariani, mariani.manuel, M-A-N-U-E-L. Et vous pourrez gagner aussi des glaces d'Emmanuel Rion, meilleur ouvrier de France, lui aussi, et champion du monde de dessert. Voilà, validé par Guillaume Gomez, Emmanuel Rion.
Tout à fait, magnifique.
Voilà.
Et pas de chocolatine aujourd'hui. Hein.
Et pas de chocolatine aujourd'hui.
Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurrefm. Merci d'avoir été avec nous et passez un bon week-end.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.